mayo kasi oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe.
Bonjour à tous et merci de participer à ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs de cette semaine. La mise en place des 26 provinces n'a pas été effective au 30 juin 2015, contrairement à ce que prévoyait le décret du Premier ministre. Des commissions mises en place pour évaluer le patrimoine des provinces à démembrer poursuivre leur travail dans certaines de ces provinces concernées. Face au retard enregistré, certains observateurs estiment que les parlements devraient abroger la loi de programmation vu des multiples difficultés rencontrées pour sa mise en œuvre. Une autre opinion propose par contre que la poursuite des opérations, qui est la poursuite des opérations donc jusqu'à la mise en place de ces provinces malgré l'expiration de la date. Alors qu'en pensez-vous? Vous pouvez nous rejoindre pour participer à ces débats à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Notez que toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie pendant 57 minutes d'échange et partage citoyen. Jean-Noël Moncondo est à la technique, Fesa Julie Bongunda et Pierre Lamégis sont à la réalisation de ce programme, coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous ouvrons les débats avec vous à Lukundula, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole par rapport à ces deux points de vue que nous avons évoqués dans notre sommaire. Face au retard enregistré, certains observateurs estiment que le Parlement devrait abroger la loi des programmations vu des multiples difficultés rencontrées pour sa mise en œuvre. Une autre opinion propose par contre que la poursuite des opérations jusqu'à la mise en place de ces provinces malgré l'expiration de la date. Alors qu'en pensez-vous?
Oui, je préfère d'abord commencer par rappeler que ce processus est irréversible et que s'il faut abroger la loi de programmation, je ne pense pas. Évidemment, le Parlement est l'autorité compétente, c'est la seule autorité responsable de cette débat. Je pense naturellement que le Parlement devait trouver une solution de réchange qui est une loi de modification. Il fallait modifier la loi de programmation et continuer ce processus irréversible puisque l'objectif de cette réforme territoriale étant celui de déléguer le pouvoir décisionnel à l'intérêt de notre pays et faciliter la participation de la population rurale à la gouvernance du pays. Donc, naturellement, il faudrait que le Parlement, qui est le seul responsable à ce niveau-là de cette débat, de prendre une solution d'échange qui est une loi de modification ou naturellement c'est ce qu'il devait faire.
Alors le contenu donc de cette modification dont vous évoquez?
Oui, le contenu devait essentiellement tenir compte de l'esprit et la lettre du constituant lui-même. Vous le savez bien, notre constitution à son article 2 a évoqué la subdivision territoriale en 26 provinces. Et le législateur avait bien compris tous les écueils qui pouvaient émailler pour la création de ces nouvelles provinces. Il avait donné un délai butoir de 3 ans et on pouvait même se servir. Il y a même le ministre Mouliège qui avait proposé de déposer un projet, on devait se servir de ça, de prendre cette loi avec un délai incroyablement bref. Et là, nous sommes déjà butés, butés à ce premier problème, on ne sait pas passer à l'étape suivante, puisque déjà le 30 juin est déjà dépassé.
Voilà, merci beaucoup Lukundula d'avoir appelé de Kinshasa, mais nous retenons une chose pour vous, ce processus est essentiellement irréversible, parce qu'on y est déjà. Vous pensez naturellement que le Parlement doit nécessairement trouver une loi des modifications qui doit tenir compte d'abord du délai de la mise en œuvre effective de cette nouvelle loi de programmation, telle que prévue par la Constitution, au lieu de le faire dans la précipitation, Alors pour vous, ce processus est irréversible dans la mesure où la loi elle-même égorge des innovations pour permettre à ce que la population puisse réellement participer dans la démocratie. Je crois que c'est cela le Koundoula.
Oui, puisque je peux m'ajouter, la réforme, nous ne sommes pas la première réforme. La réforme, c'est une chose qu'on a commencé depuis 1924, là où le Congo était subdivisé en 4 provinces. En 1935, nous sommes passés de 4 à 6 provinces. En 1963, nous sommes passés de 6 à 21 provinces. En 1966, nous sommes passés de 8 à 11. Et en 1988, nous sommes passés à 11 provinces avec l'expérience. Dites-vous qui était une question de tenter indubitablement l'expérience du découpage d'une manière progressive. Et si vous lisez, vous comprenez la philosophie du législateur, c'est d'une manière progressive. Pour preuve, même le vice-premier ministre, l'actuel vice-premier ministre, avait posé ses problèmes là au niveau du Parlement par rapport à des lignes budgétaires.
Oui, alors
il demande beaucoup de moyens, mais ça n'a pas été prévu par la Cour.
Alors, une question de curiosité, parce que vous semblez réellement maîtriser tous les contours de cette question. Voilà, alors aujourd'hui, c'est vrai, on attend un rapport final de la commission qui a été mise en place pour évaluer l'actif et le passif de ces nouvelles provinces. Aujourd'hui, il est dit clairement dans les décrets du Premier ministre que le rapport sera déposé au niveau des assemblées provinciales sans débat.
Oui, vous comprenez avec moi, donc vous ne dites pas que c'est lui qui avance moi cette maîtrise-là, même le cadre stratégique de la mise en œuvre de la décentralisation avait déjà trouvé toutes les solutions par rapport à ça. Vous allez comprendre bien avec moi qu'entre la loi de programmation et les décrets du Conseil, il y a un certain nombre d'incohérences. Alors, il est grand temps, nous avons besoin d'accélérer la décentralisation dans notre pays, c'est la seule solution magique pour le développement autocentré, pour que la démocratie parte de la base, mais nous devons faire face à tous ces écueils-là et les jouer de la plus belle des manières. Et non aller vite dans des zones, dans la précipitation, et nous heurter à chaque fois à des problèmes qui devaient trouver des solutions au départ. Il est grand temps que notre Parlement soit devant sa responsabilité. Il faut dire que nos députés restent dans les maisons et à qui c'est ça, ils devaient prendre les délégataires de la base et nous proposer une loi aussi réaliste. Ça, c'est ils ont pu faire, avec laquelle nous nous retrouvons déjà droit au mur.
Voilà, merci beaucoup le Koundoula et surtout merci de nous avoir brossé la chronologie de ce processus depuis 1924 où nous étions à 4 provinces, en 1935 on est passé de 4 à 6, en 1963 de 6 à 21, de 66 de 8 à 11 et en 88 avec cette nouvelle expérience de découpage au niveau du nord sud Kivu et le Maniema. Voilà, donc vous avez souhaité qu'on ne puisse pas en tout cas nous verser dans la précipitation et c'est un problème aujourd'hui de débattre sur les écueils et qui tourne autour de cette loi de programmation par rapport à la Constitution. Merci beaucoup, Lou Koundoula, d'avoir appelé. Maître Likonza, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole, Maître Likonza.
Bien, merci. Je voudrais d'abord clarifier que rien n'est précipité dans ce processus. Et à mon avis, je pense que ce n'est pas encore tard. D'ailleurs, à entendre les uns les autres, si l'État y en a eu dans l'installation des nouvelles provinces, cela satisfait dans une certaine mesure à la préoccupation de ceux-là qui fournissent de la surséance même de ce processus. Mais ça ne constitue pas non plus un scénario, étant donné que cela relève de la volonté constitutionnelle. C'est le peuple congolais lui-même qui a opté pour le changement de 10 provinces, plus la ville de Kinshasa, à 25 provinces, y compris la ville de Kinshasa également. Et bien, dire que le Parlement doit abroger la loi de programmation, je pense également que ce raisonnement n'est pas correct. Et en plus de cela, on doit éviter de condamner par défaut les différentes commissions mises en place à cet effet. Puisque une fois, j'avais suivi dans une province, une commission a été empêchée d'accéder à certaines données. Et tout récemment, sur vos antennes, j'ai suivi le président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur en train de reprocher le travail de la commission. Qui du reste a fait preuve de la diligence pour déposer son rapport dans les délais. En tout cas, par rapport à cela, on peut encourager la commission qui procéder à des reproches. Cela ne tombe pas aussi parce que la province de l'Équateur a fait preuve de beaucoup de reproches, même quand il ne faut pas reprocher, il y a toujours des contestations, même pour ce qu'on ne peut pas contester.
Oui, maître Likonda. Vous avez suivi tout à l'heure Lokundula, qui a appelé d'ailleurs dans la même ville, la province de Kinshasa, qui a insisté sur le caractère irréversible de ces processus et qui a souhaité qu'on puisse revenir auprès du constituant, auprès de. Le législateur, pour ne fût-ce que proposer une loi de modification. Parce que là, finalement, le processus, on a comme l'impression qu'il y a un torse, il y a une compatibilité avec certaines dispositions de la Constitution.
Bon, modification, je ne peux pas refuser, puisque la loi est souvent créée en tenant compte des réalités sociales du moment. Et si. Une évolution sociale s'est observée, on ne peut pas éviter de procéder à des modifications des lois. Mais juste à faire du contraire, moi, je pense qu'on devrait plutôt, d'abord, procéder à l'installation des nouvelles provinces telles que dit dans la loi de programmation, que d'envisager des modifications pendant qu'on n'a même pas encore installé les nouvelles provinces telles que voulues. Et donc, si modification il y en aura, il faudrait attendre à ce que les nouvelles provinces soient d'abord installées. Et c'est un processus. Le processus ne se fait pas par un bâton magique. Ça se fait de manière progressive. Et donc, nous devons prendre notre mal à conscience, faire confiance à des commissions mises en place, et aussi aux autorités provinciales, également aux députés provinciaux, de faciliter la tâche aux commissions, de recueillir les données nécessaires en vue d'évaluer les patrimoines. C'est de critiquer des commissions pendant que vous êtes vous-même acteur, obligé de mettre les données à la disposition de la commission. Je pense que ce n'est pas correct. Et bien, jusque là, la démarche continue et je souhaite que tout le monde puisse s'approprier ce processus-là. Et aussi, à mon avis, je crois qu'on devait même pas se limiter à 25 provinces de la ville de Kinshasa, mais plutôt, vu l'immensité du pays, on devrait plutôt créer 50 provinces pour la République de l'État du Congo. En vue de permettre ça, voilà. Ça, je
tiens. Alors, ça s'appelle encore un autre débat parce que vous souhaiterez qu'on aille encore à plus de 26, donc si c'est pas 2, comme vous l'avez dit, 25 fois 2, ça fait 50 provinces, vu l'immensité du pays. Merci beaucoup, Maître Likonda, 081 890 6315. Pour votre intervention en direct.
À Matadi, 62 FM. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous retrouvons notre invité qui réagit depuis depuis Goma. Maître Soudi, vous êtes expert en décentralisation. Vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Maître Soudi, je crois que l'actualité tourne autour de la mise en œuvre effective de 26 provinces, de nouvelles provinces à travers les pays. Aujourd'hui, tout le monde attend le rapport de la commission qui a été chargée d'évaluer l'actif et le passif de ces nouvelles provinces. Dans quelques provinces, là où le travail a été déjà fait et le rapport a été déjà déposé, et déjà des réactions ont été enregistrées. Nous pouvons citer les cas de la province de l'Équateur. Comment vous réagissez, Maître Soudi Alimafi?
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord que l'opinion puisse comprendre les origines de cette loi de programmation avant d'arriver sur les grands axes, les grandes lignes qui caractérisent cette loi et peut-être les compétences qu'il faudrait tirer maintenant. En termes d'origine, c'est l'échec de l'application de l'article 226 de la Constitution qui prévoyait, je souligne bien, 36 mois après l'installation des institutions politiques nationales. Et ces institutions politiques nationales, la dernière institution, c'était le Sénat. Vous voyez bien que le constituant lui-même avait prévu 36 mois, ça veut dire 3 ans. si vous divisez 36 par 12, vous avez 3 ans, jour pour jour, qu'il fallait mettre en place ce processus d'installation des nouvelles provinces. Et à l'époque, je me souviens que le ministre du gouvernement qui avait initié le processus avait proposé cette loi de programmation qui n'avait pas été comprise par l'ensemble des institutions, notamment les deux chambres de notre Parlement. Le deuxième élément en termes d'origine de cette loi de programmation, c'est la conséquence de la révision de la Constitution, cet article 226. Quand on l'a révisé, il fallait maintenant recourir aux anciennes idées, il fallait à tout prix avoir une loi de programmation et mettre des éléments de mise en œuvre qui se trouvent dans la loi sous discussion. Alors, quels sont les grands axes, les grands éléments de cette loi? Cette loi prévoit, dans les 15 jours de sa promulgation, la mise en place des commissions provinciales. On dit bien dans les 15 jours. Et ces commissions-là devaient être mises en place par décret du Premier ministre. La loi a été promulguée le 28 février 2015. Je n'ai pas, vous allez suivre, les auditeurs ont suivi la prise de décision au niveau du gouvernement sur la mise en place des commissions. Regardez si ça a respecté les 15 jours.
Mmh.
Au-delà de ces commissions-là, il y a des sous-commissions qui devaient être, donc les commissions devaient refléter la configuration actuelle des 11 provinces.
Oui, oui.
Les sous-commissions devaient refléter la configuration des 25 plus la ville de Kinshasa. Donc on devait avoir 26 sous-commissions. À l'heure qu'il est, il faudra encore poser la question. Après la mise en place des commissions, est-ce que les sous-commissions ont été mises en place? Le deuxième grand élément, c'est la présentation des rapports des commissions aux assemblées provinciales dans les 30 jours de l'installation des commissions. Les commissions elles-mêmes, après avoir été mises en place, vous avez tous suivi combien de temps ils ont pu mettre à Kinshasa avant de se déployer. Est-ce qu'ils ont respecté ces 30 jours? Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième grand élément, ce sont les réunions des nouvelles assemblées provinciales. Quand vous voyez l'esprit et la lettre de la loi, les premières réunions des assemblées provinciales devaient s'organiser partout au même moment. Parce que c'était chronogrammé au niveau de la loi et toutes ces provinces-là devaient se faire. Vous allez vous souvenir. Parce que la durée globale de ce processus, c'est 120 jours. Le président de la République a promulgué cette loi le 26 février 2015. Et nous sommes aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, si je ne m'abuse pas, nous sommes le 6 juillet 2015. Essayez de compter le nombre de jours.
Mmh.
Alors, avant même d'arriver aux actions à mener, parce que là c'est un autre grand débat sur l'initiation par le gouvernement central en consultation avec les nouvelles...
Oui, maître Soddy, pour éclairer un peu la lanterne des auditeurs qui nous suivent, aujourd'hui il y a un grand travail qui est déjà fait, un pas qui a été déjà réalisé par cette commission sur les provinces qui sont concernées. Il y a déjà quatre pratiquement, si les calculs sont bons, où le travail a été déjà... est terminé. Il reste aujourd'hui, peut-être il y a la commission qui va au Katanga cette semaine, et puis le Kasaï occidental qui sera en reste. Mais voilà. Donc il y a un grand travail qui est déjà fait et des rapports qui sont déjà déposés au niveau des assemblées provinciales. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà des réactions qu'on a enregistrées, notamment au niveau de la province de l'Équateur.
Non, d'abord, en tant que légaliste, je vais vous dire que tout ce travail-là est en train d'être fait en marge déjà de la loi. Parce que nous sommes au-delà du délai légal qui a été circonscrit par la loi.
Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Tout se fait déjà au-delà de 120 jours.
Oui, ça c'est déjà...
C'est-à-dire que ces commissions peuvent continuer, mais oui, il faudra qu'elles soient couvertes par un instrument juridique.
Tout à fait.
Dehors de la loi de mise en œuvre.
Mmh.
Donc, les commissions, les actes sont déjà réalisés. Voilà le travail que notre Parlement va faire en urgence. C'est soit de réviser cette loi-là, ou de la modifier, ça dépend de quel concept ils veulent prendre, de manière à ce que les actes qui sont en train d'être commis maintenant par ces commissions soient
couverts
par le cadre légal congolais. Les faire en dehors de cela, ça sera vraiment non seulement du désordre, parce qu'on ne saura pas à quelle date vont se constituer effectivement
des provinces, quel est le rythme à suivre, ainsi de suite, parce que le cadre qui détermine le processus et les modalités de mise en œuvre, c'est la loi de programmation qui est déjà en dessous, tombée en dessous.
Alors, mais aujourd'hui, c'est vrai, il y a pas mal de débats qui tournent également autour de cette disposition qui parle de dépôt du rapport sans débat.
Oui, effectivement, c'est un rapport sans débat parce que lorsque vous voyez les tâches qui ont été assignées à ces commissions-là, on dit établir l'état des lieux de la province. Je ne sais pas ce que les gens comprennent par l'état des lieux. C'est examiner de fond en comble les actuelles provinces à subdiviser et de dresser immédiatement tout ce qui constitue l'actif de ces provinces-là et le passif. Et procéder par la répartition entre les nouvelles provinces, la répartition du patrimoine entre les nouvelles provinces qui composent ces anciennes provinces. Effectivement, c'est au niveau de la répartition qu'il faudra absolument qu'il y ait un débat.
Au niveau de la
loi elle-même n'a pas dit sans débat. Bon, la loi a dit prendre acte. Il y a sans débat sous-entendu.
Oui.
Mais lors de la prise d'acte, il y a moyen d'ouvrir un débat. Parce que la répartition, là, si elle n'est pas équitable,
ça peut appeler le débat.
Tout de suite, ça va engendrer des conflits. Nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait un débat minimum lors de la prise d'acte. L'Assemblée provinciale devra prendre acte après avoir passé en revue. Par exemple, j'ai pris un cas de la répartition du patrimoine. Parce que là, quand vous prenez l'exemple de l'ancien Kivu, le nord, le sud Kivu et les Maniema, jusqu'à aujourd'hui, heureusement que ça s'arrange pacifiquement, mais il y a un contentieux sur la répartition du patrimoine. Et donc, s'il n'y a pas de débat, on risque
de tomber dans
quelque chose d'anormal.
Voilà, alors, Maître Soudi, nous vous gardons encore en ligne. Il est temps pour nous de rentrer encore de l'autre côté des standards pour accueillir certains d'autres auditeurs qui attendent de réagir également dans cette émission. Nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre dans cette émission, vous suivez bel et bien Parole aux auditeurs, votre magazine de débat citoyen. Avec Fontaine, vous êtes à Kinshasa, Patrice Mbujimaï, 081-890-7315 pour votre intervention directe.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Capi. Parole aux auditeurs, J.R. Nguemo.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Fontaine, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, je voulais rectifier un peu, je suis plutôt à Kisangani.
Voilà, Fontaine, vous avez la parole.
Oui, je voudrais d'abord dire premièrement que cette loi, ce processus a connu des problèmes depuis le départ. Les législateurs congolais, en élaborant la constitution de la République du Congo, qui a été voté par référendum, par la suite promulgué par le chef de l'État, avait prévu 36 mois pour la mise en place des nouvelles provinces. Dans son esprit, les législateurs congolais, en ce moment-là, pensaient que dès lors que les nouvelles institutions seront mises en place, le processus pourra commencer. Et c'est comme cela que les constituants avaient pensé que dans les 36 mois, il fallait que l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire, devrait accompagner ces processus-là. Ce qui n'a pas été fait. Parce que c'est un processus, la réorganisation du territorial. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. À un moment, on vient, on nous dit que écoutez, la loi est déjà là, c'est pour 3 mois, c'est pour 120 jours. Ce qui pratiquement contredit la volonté primo du législateur. Et ça ne nous surprend pas si aujourd'hui l'on arrive à un niveau où l'on est respecté. Et si même, nous revenons même sur la loi elle-même, il a été dit, dans les 15 jours qui suivent, le Premier ministre devrait prendre par décret investir les commissions qui devraient travailler maintenant pour l'installation des nouvelles branches, ce qui n'a pas été respecté. Donc ça prouve en suffisance qu'il y a eu deux problèmes de par cette loi qui a contredit la volonté du législateur dès le départ. Parce que, vous voyez même, il n'y a pas eu de moyens, ça n'a pas été budgétisé pour cette année. Et il y a eu même des problèmes autour de son financement. Où est-ce qu'on devrait trouver les moyens pour ça? Encore une fois, le législateur lui-même s'est contredit. Voilà un peu les problèmes aujourd'hui. Donc,
oui, Fontaine, il y a pas mal de problèmes. Il y a un de vos prédécesseurs qui a évoqué tout à l'heure la nécessité de la mise en œuvre d'une loi, la mise en place ou l'élaboration d'une loi de modification pour modifier en fait cette loi de programmation. D'autant plus que il a été même d'ailleurs complété par notre invité qui parlait tout à l'heure d'un cadre légal qui doit impérativement couvrir les actes que posent actuellement les membres de cette commission, la commission qui travaille par rapport à la mise en œuvre effective de ces nouvelles province, ses membres travaillent déjà hors délai selon la Constitution.
Je crois qu'il n'en est même pas question de modification. Que cette loi tombe, que l'on prenne une loi qui pourra respecter la Constitution. Que cette loi tombe. Parce qu'il n'est pas question aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ces commissions devraient continuer à travailler jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils sont dans l'illégalité. Il faut que cette loi tombe et que l'on élabore une autre loi qui pourra alors respecter toutes les dispositions, une loi qui pourra tenir compte de toutes les différentes questions budgétaires, financières, aussi la morale de la population et des acteurs politiques que nous avons vu lorsque ça a été promulgué cette loi, ça fait beaucoup. Oui, les gens ont parlé de la xénophobie, de la chasse, tout ça, parce que l'on n'a pas préparé et les acteurs politiques eux-mêmes et la population. C'est pour ça que nous disons qu'il était utile que cette loi tombe et que l'on élabore une loi qui pourra faire. Et aujourd'hui, écoutez, les nouvelles provinces vont éclater. On va demander aux députés provinciaux de rentrer et de lire des gouverneurs, alors que ces mêmes députés provinciaux ont déjà déposé leur candidature. Et on se pose la question, les gens qui n'ont plus de
légitimité,
ils vont transférer comment la légitimité.
Voilà.
Donc, il y a beaucoup de problèmes que cette loi tombe.
Merci beaucoup, Fontaine, pour vous. En tout cas, il n'y a pas à négocier. Cette loi doit nécessairement tomber. Mais ce n'est pas le point de vue qui a été partagé par Lukundula qui dit ce processus. C'est irréversible. Il faut plutôt proposer une loi. Il faut plutôt proposer une modification de cette loi, travaillant sur la mise en œuvre effective de ces nouvelles provinces. Il a été d'ailleurs renchéri par notre invité qui parlait plutôt du cadre légal qui doit impérativement couvrir les actes que posent actuellement les membres de la commission qui travaille. Merci beaucoup Fontaine d'avoir appelé de Kisangani. Patrice, vous êtes en Mbujimayi. Bonjour Patrice.
Bonjour, M. Régional.
Vous avez la parole, Patrice.
Bonjour, M. Régional.
Oui, bonjour, Patrice. Vous avez la parole. Vous nous avez appelé de Mbujimayi. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Patrice. Je crois qu'il y a quelques perturbations au niveau de réseau. On ne s'entend pas bien. Patrice, vous êtes en ligne? Voilà, Patrice, tout à l'heure, on va vous retrouver. Le temps pour nous de revenir à vous. Maître Soudi, vous êtes expert en décentralisation. Vous avez suivi nos auditeurs tout à l'heure. Disons, d'aucuns ont même proposé carrément la suppression ou l'annulation de cette loi pour en créer encore une autre. Et voilà, il y a d'autres, par contre, précédemment, qui vous ont rejoint avec la proposition de la mise en œuvre d'un cadre légal qui doit couvrir les actes que posent actuellement les membres de la commission.
Oui, d'abord pour le dernier intervenant, je voudrais peut-être lui rappeler qu'il est en 6 mois que la Constitution avait déjà été abrogée avec la modification de l'article 226 de la Constitution. c'est l'idée de la loi de programmation qui est venue remplacer automatiquement ce délai-là, qui était raisonnable pour moi. Moi, je pense, au lieu d'aller de nouvelles lois en nouvelles lois, ainsi de suite, parce que les lois doivent être principalement induites par la Constitution, celle-ci en est une, qui a été induite par cet article 226 modifié de la Constitution. Et donc, il faudra revoir la question des délais. Nous n'avons jamais cessé de le dire. Dans 120 jours, vous n'allez pas envoyer une commission qui puisse circuler l'ensemble du territoire, arriver à, si on peut facilement arriver dans des centres-villes où les routes sont praticables. Mais à Bokungui, qui est là, par exemple, ça serait difficile d'atteindre ce délai-là et essayer d'évaluer tout ce qu'il y a comme problème au niveau des nouvelles provinces en matière infrastructurelle, en matière économique, parce que la survie d'une province, une nouvelle province, c'est aussi sa capacité de collecter des recettes qui puissent la permettre à tourner. Et il y a beaucoup d'autres secteurs comme ça qui devraient être évalués. Et c'est sur base de cela, en termes d'actifs et de passifs, que ces rapports-là devaient être présentés. Moi, je me pose même des questions sur des questions, sur des provinces, par exemple, qui ont présenté leurs rapports. Je me pose des questions sur le vrai contenu de ces rapports-là, tenant compte de l'article 5 de la loi de programmation, qui parle des quatre éléments essentiels que les commissions devaient réunir dans ces rapports-là, avant de les présenter. L'autre élément, ce sont des actions à mener qui ont été prévues par cette loi. Il avait demandé au gouvernement central, en collaboration avec les nouvelles provinces installées, qu'ils puissent mettre un programme de 5 ans de réhabilitation, de construction, ainsi de suite. Nous, comme expert, nous avions pensé que cette programmation devait être non seulement progressive, c'est-à-dire voir les provinces qui sont déjà capables d'être installées en termes d'infrastructures, en termes de viabilité économique, en termes de tout ce qu'il y a, ressources humaines, ainsi de suite, qu'on commence à mettre en place ces provinces-là et que l'on puisse maintenant anticiper par la mise en place des infrastructures minimum pour permettre à ces nouvelles provinces qui seront installées au fur et à mesure selon la programmation de commencer à fonctionner, parce qu'ici, on a placé maintenant en aval ces actions-là, des réhabilitations, des constructions, ainsi de suite, en aval, et ça va faire en sorte que pendant 5 ans, il y ait ce que nous, experts en matière de centralisation, nous pensons être des empiétements sur le principe de libre administration des provinces, parce que tout ce qu'on a déterminé comme éléments infrastructurels, questions économiques, ainsi de suite, qui seront dépendance de manière presque totale du gouvernement central, ça va biaiser le fonctionnement normal.
Oui, il y a une inquiétude.
Il faudra qu'on puisse réviser cette même loi pour ne pas aller de nouvelles lois à nouvelles lois. On la révise en termes de délai et aussi en matière d'action à mener pour la mise en place de nouvelles provinces.
Alors,
les délais suffisants parce que le processus est déjà long.
Oui, il y a tout à l'heure Fontaine qui insistait également sur, en fait, qui s'inquiétait hein, d'une situation. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a déjà des députés provinciaux qui ont été déjà, qui leur candidature déposée ont été validées. Aujourd'hui, comment ça va se passer? C'est même des députés qui seront et ils iront encore dans d'autres provinces pour aller élire des gouverneurs de provinces. Je sais pas, ça c'est pour Fontaine, ça prête quand même à confusion.
Oui, là il n'y a pas tellement de grands problèmes parce que ils ont déposé des candidatures d'abord conformément à la loi électorale qui même l'ancienne loi électorale avait déjà tenu compte des nouvelles provinces. Ça veut dire que pour les provinces qui ne sont pas encore démembrées, l'assemblée provinciale pourra être. Si on arrive jusqu'à cette date-là et si les nouvelles assemblées provinciales ne sont pas mises en place, ça sera comme les actuelles assemblées provinciales. Qui, au fur et à mesure du processus, ils vont encore se désintégrer pour reconstituer les nouvelles provinces. Donc, à notre avis, il n'y a pas tellement de grands problèmes sur ce point-là parce que la nouvelle loi électorale a
respecté
le même principe qu'avait annoncé l'ancienne loi électorale qui prévoyait déjà, parce que les assemblées provinciales aujourd'hui
si les provinces à démembrer sont constituées conformément aux nouvelles provinces. C'est comme ça que la loi a même rappelé cela en disant que ça va tout simplement se désintégrer et que les groupes de députés provinciaux qui composent ces nouvelles provinces vont aller se réunir et élire les nouveaux gouverneurs, ainsi de suite. Voilà. Donc là,
il n'y a pas de souci par rapport à ça.
La grande crainte, c'est l'effectivité de la mise en place des nouvelles provinces et le vrai contenu de ces rapports-là, notamment en ce qui concerne la répartition du patrimoine et les autres questions économiques, etc.
Voilà, alors nous allons retrouver Omar qui est à Kinshasa. Maître Soudi, gardez la ligne. Omar, vous êtes avec nous, Maître Sonville également, à Lubumbashi. Omar, bonjour.
Bonjour JR et bonjour à l'invité.
Vous avez la parole, Omar.
Merci beaucoup JR. Lorsque notre pays a décidé d'adhérer dans ce processus de gestion de la décentralisation, nous avons tous applaudi, car il était important d'emprunter un chemin de la gouvernance de proximité. Mais les gens oublient une chose, que la décentralisation en tant que notion a des caractéristiques. La première, c'est qu'elle est processée. On devait comprendre qu'il s'agit d'un processus qui est épisodique et qui est statique. Il ne pouvait pas un seul jour, deux jours, une année, trois ans. Deuxièmement, on a également oublié que la décentralisation était coûteuse. Elle exige un temps record pour sa réalisation. Elle exige des moyens tant matériels que financiers. Et enfin, on a également oublié que la décentralisation était technique. C'est une notion qui n'est pas réservée à tout le monde, même les députés et les sénateurs, les membres des commissions. La majorité d'entre eux ne maîtrisent pas les notions techniques de la décentralisation. Je pense que si on s'était rendu compte de ces différentes caractéristiques, on aurait mis peu des études préalablement, afin ou avant, n'est-ce pas, de déclencher la mise en œuvre. En ce jour, nous sommes en train de parler de la mise en œuvre qui a été initiée par la loi de programmation. Vous avez organisé une émission sur le probable. La probable effectivité de cette loi. Nous avons dit à notre époque que ce n'était pas possible vu le temps qui a été accordé. Et aujourd'hui, le temps nous donne raison. Moi, je pense aussi qu'à l'époque, il y a un problème sérieux. Une loi qui ne suffit pas qu'elle soit promulguée. Encore faut-il qu'elle soit opportune, utile et encore faisable. Mais nous nous sommes dit et nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi le gouvernement congolais était-il pressé. Aujourd'hui, la loi n'a pas été respectée et le travail y attendu n'a pas été réalisé. C'est la conséquence de la non-préparation.
Non, mais Omar, quand vous parlez du travail non réalisé, ce n'est pas la même lecture que fait d'autres observateurs, parce qu'aujourd'hui, la commission a travaillé pratiquement dans les deux tiers des provinces concernées.
Je ne sais pas si je suis au Congo, je suis à la planète Mars, j'ai suivi la radio, la télévision. La seule commission qui a fini le travail, c'est la commission de Kisangani. Je ne sais pas, à moins que je ne sois...
La province orientale. Oui, la province orientale. Il y a la commission qui va au Katanga, il y a l'Équateur qui est déjà... le travail était déjà fait.
Ah, merci quand même de m'informer. Mais malgré cela, si vous suivez les informations, vous êtes d'ailleurs au cœur des informations, toutes les commissions n'ont pas fait le travail qui leur a été demandé. À cela ne tienne. Aujourd'hui, la loi n'a pas été respectée. Moi, je pense que je voudrais, n'est-ce pas, m'écrire en faux à ce que Maître Soudi a dit. Moi, je ne souhaite pas qu'on puisse abroger la loi et en adopter une nouvelle. Non. Lorsque eux n'ont pas été respectés du point de vue des délais, la sanction de l'irrégularité, c'est l'annulation de l'acte. Les actes qui ont été pris, lorsqu'ils sont en dehors des goûts fixés, ils doivent être annulés. Mais ce que moi, je propose, je crois que c'est le premier intervenant qui l'a dit, qu'on puisse amender ou modifier la loi. Parce que plus d'un amendement d'une loi ou d'une modification, c'est de l'adapter aux circonstances actuelles de la société. Donc, au lieu d'abroger la loi, qui est importante pour cette société, il faudra plutôt l'adapter aux réalités actuelles en tenant compte des moyens qui doivent être mis en œuvre. Et deuxièmement, il faudra ne pas se limiter à créer des commissions dans le plaisir de les créer, encore faut-il accorder des moyens qui restent la commission de décentralisation et technique. Et enfin, je voudrais finir par là, dire à tout le monde que la décentralisation n'est pas un slogan, c'est un état d'esprit. Il n'est pas seulement être l'apanage des députés, des commissions ou encore des parlementaires, mais aussi de la population qui doit la vivre. Et c'est parmi, n'est-ce pas, les causes qui font que nous puissions déclencher. Donc, la somme de ces solutions, 1, l'amendement ou l'adaptation de la loi aux réalités actuelles, 2, accorder ou l'octroi des moyens à des commissions qui doivent travailler, et enfin, la sensibilisation de la population sur les notions de décentralisation pourront, n'est-ce pas, faire œuvre utile pour mettre en œuvre professionnellement la décentralisation. J'ai dit et j'y ai, je vous remercie.
Merci beaucoup, Omar. On va suivre Maître Sonville. Quelle sera sa réaction par rapport à votre intervention? Maître Sonville, bonjour.
Bonjour Monsieur Gilles, bonjour à tous les membres d'auditeurs de Radio Capi, de Radio de la Paix, et bonjour aussi à notre invité.
Voilà, vous venez de suivre Maître Omar, qui a en fait rejoint tout à l'heure le point de vue de notre invité, Maître Soudi, qui est à l'IMACI, expert en décentralisation, et le point de vue qui a été également partagé par le premier auditeur qui a ouvert le débat aujourd'hui, Lou Kundula, qui parlait de la modification de cette loi pour permettre de l'adapter aux circonstances actuelles, et Maître Soudi, notre invité, a insisté sur les cadres légaux pouvant impérativement couvrir les actes que posent actuellement les différentes commissions.
Et moi, j'estime que j'épouse leur idée, parce que c'est un peu génial, puisqu'il faudrait que cette loi soit révisée afin d'amener un argument qui peut permettre cette commission dans le cadre légal, puisque cette commission travaille au-delà même de la durée du cadre légal. Puisque M. Gilles, cela devait se faire dans les 120 jours après la promulgation de la loi par le chef de l'État. Or, ces 120 jours sont déjà expirés. Alors, ça ne sert à rien au pouvoir de faire un travail marathon qui est fait d'une manière cavalière. Il faudrait qu'il y ait un peu de temps. Tout a été violé en amont. Puisqu'en principe, ce travail devait se faire, l'effectivité de ces promesses devait se faire 36 mois juste après l'installation des premières institutions en 2006. Voilà que ça a été violé. Alors, moi, la question que je me pose, quel est l'intérêt du pouvoir en précipitant ce travail-là? Puisque lorsque nous voulons des élections apaisées, il faudrait y aller avec beaucoup de taxes, avec beaucoup de stratégies pour que les uns et les autres ne soient pas, ne puissent pas se révolter et qu'il n'y ait plus de réclamations, puisque nous avons un besoin d'un pays là où règne la paix. Mais avec toutes ces agitations, oh, ce n'est pas la seule loi qui doit être peut-être révisée. Vous savez avec moi, M. Gilles, qu'il y a une question extraordinaire par rapport aussi à d'autres lois qui doivent concourir aux scrutins qui sont prévus par la CENI. Mais, à titre administratif, il y a à Kisangani, la commission qui a été à Kisangani, et cette commission a fini son rapport. Mais dans quel délai? Est-ce qu'une province comme Kisangani et une province comme la province orientale, et l'état de rien d'une province peut se faire pendant une crise de courte durée? Moi, je trouve que c'était un travail bâtier. Même le rapport a été déposé, au lieu d'être déposé à la première, le rapport a été déposé au bureau de l'Assemblée. Il y a eu quand même des mécontentements de soulèvement dans les chefs des professeurs de Kisangani. Par rapport au Kasanga, ça c'est pour faire un petit correctif à vos allégations, M. Gier, ne m'entendez pas bien, la commission au Kasanga est déjà là depuis la semaine dernière, par le gouverneur de la province, Moïse Katumbi-Tchafo. Est-ce que c'est dans une courte durée, vous connaissez vous-même la dimension du Kasanga, de la province du Kasanga, c'est plus grand, peut-être plus quatre fois plus grand que même la France. Est-ce que c'est ça de lieu peut se faire pendant 4 jours et pendant une si courte durée. Il faudrait que cette commission, il y a un des auditeurs, même si je ne sais pas si c'est l'invité qui apparaît même des sous-commissions, parce que cette sous-commission a été instituée. Or, pour s'attendre à un travail qui sera accepté par tout le monde, il faudrait qu'on y aille avec beaucoup de taxes. Parce que autant de scrutins exigent la programmation de ces provinces-là. Et au-delà de ça, on nous a même promis que cette programmation sera effective au 30 juin de 2015, chose qui n'a pas été faite. Alors moi, je suis pour y aller avec mon équipe, qu'on puisse réviser, s'il s'agit même d'y aller, cela ne puisse pas causer de remords dans les yeux des autres, qu'il y ait un avènement qui va permettre à toutes les parties de se mettre d'accord et de ne pas préjudicier les uns ou les autres. Afin que les scrutins, par rapport à la programmation de ces nouvelles provinces, puissent être faits dans le calme, dans la calmie, tel que tout le monde le souhaite. en commençant même par la tête de la République.
Voilà, alors parce que vous avez parlé de l'effectivité de la mise en place de ces nouvelles provinces, notez qu'il y a eu des débats autour de dispositions légales qui ont parlé de ces délais. C'est vrai, d'aucuns pensaient que c'était dit dans la loi de la programmation, et pourtant non, c'était plutôt lors de l'intervention du secrétaire général du gouvernement qui parlait de 30 juin que les nouvelles provinces devraient effectivement entrer en fonction avec des nouveaux gouverneurs qui devraient être élus par les actuels députés provinciaux arrivés donc fin mandat. Bon voilà, donc nous avons souhaité donc porter cette précision pour éclairer un peu la lanterne des uns et des autres. Merci beaucoup Maître Sonville d'avoir appelé de Lubumbashi. Alors Constant, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Constant.
Bonjour monsieur le journaliste.
Vous avez la parole Constant.
Merci beaucoup. Je voudrais rapidement revenir sur la date du 30 juin. J'appelle que ça n'était pas un hasard, mais aléatoire, du fait pour le gouvernement de l'avoir prévu comme butoir pour la mise en place de nouvelles provinces. En fait, il regarde la loi de programmation telle que promulguée le 28 février, qui prévoyait un délai maximum de 120 jours, avec des délais minimum de 60 jours. Vous comprendrez que 15 plus 30 plus 15, ça vous fait 60. Et donc, en principe, c'était au 28 avril que devrait avoir lieu l'installation de ces nouvelles provinces. Faute de quoi, il fallait donc avoir cela au plus tard le 28 juin 2015. Voilà pourquoi le gouvernement avait postposé jusqu'au 30 juin. Donc, ce n'était pas un hasard. Et rapidement, dire que, écoutez, le découpage administratif n'est pas un procédé mécanique, vous comprenez ? Et donc, c'est un processus dont la mise en œuvre nécessite impérativement l'emmancellement d'un nombre important de mécanismes, de mesures d'encadrement. Entre autres, vous savez qu'il fallait impérativement mettre en place toutes les lois relatives à la mise en activité la décentralisation, entre autres la loi sur la péréquation, aujourd'hui la loi sur portant organisation, fonctionnement, services publics au niveau du pouvoir central, des provinces, des ETD, la loi sur le statut des chefs coutumiers et consorts.
Constant, comment réagissez-vous par rapport à la réaction de votre prédécesseur tout à l'heure qui parlait de délais accordés par les différentes commissions qui travaillent pour la mise en œuvre effective de ces nouvelles provinces, qui devaient en principe travailler sur l'établissement de l'état des lieux, donc devaient établir l'état des lieux de la province, dresser la CLIF et les passifs de la province, répartir entre les nouvelles provinces les patrimoines ainsi que les ressources humaines et financières. Tout à l'heure, donc, votre prédécesseur disait que le délai qui a été accordé, c'était pratiquement impossible. Aujourd'hui, si nous prenons les cas justement de la province orientale, de la province orientale, c'est comme si le travail était fait dans la précipitation et il dit que le rapport peut être même bâclé. Est-ce que vous partagez cet avis?
Je partage totalement ce point de vue, en partant déjà des incohérences que nous pouvons dénoter dans cette loi. Il faut noter l'irréalisme de délai. La Constitution, telle que révisée en 2011, avait extirpé ce délai de 36 mois de l'article 226 avec raison, vous comprenez. Malheureusement, le législateur revient sur la même erreur alors extirpée avant. Et donc, aujourd'hui, il faut aussi noter que cette loi-là ne définit pas ce qu'on doit entendre par le patrimoine, la répartition du patrimoine, de quel patrimoine il s'agit exactement. La loi ne le dit pas. La loi ne prévoit pas l'essor des gouverneurs dont le mandat est encore en cours. Le cas de du gouverneur de Bandundu, Kasaï Occidental et consorts. Sachez que l'élection de ces gouverneurs leur avait accordé ce qu'on appelle en droit les droits acquis. Vous comprenez ? Qui ne doivent pas prendre fin de manière automatique sans indemnité quelconque. La loi n'a pas également, lorsque la loi prévoit par exemple la prise d'acte sans débat, c'est une erreur monumentale. Vous savez que c'est une question qui touche à la marche de toute une province, il nécessite impérativement un débat. Donc, l'idéal serait été de pouvoir renvoyer ces rapports au niveau du pouvoir central pour pouvoir harmoniser, pour harmonisation et équilibrage entre différentes provinces, et puis renvoyer encore au niveau des assemblées provinciales existantes pour débat et non prise d'acte.
Ça, c'est un fait épi. Je dois maintenant rebondir sur les conséquences, en réalité, du dépassement du délai des 120 jours. Notez que juridiquement, lorsque nous sommes dans un cas où les nouvelles provinces sont installées dans les délais des 120 jours, la conséquence juridique est que la loi tombe caduque.
Voilà, donc,
au cas où, et j'en finis.
Rapidement, oui, rapidement, Constant.
Au cas où, les nouvelles provinces ne seraient pas installées dans les 120 jours, juridiquement, la loi tombe aussi bien caduque. Ça veut dire qu'elle devient obsolète. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc la modifier, l'adapter au contexte, aux réalités de terrain.
Merci
voilà
beaucoup, Constant.
La
merci.
Conséquence juridique qui coule aujourd'hui
de
délai des 120 jours. On ne peut plus continuer à procéder au découpage administratif avec une loi obsolète, une loi désuète qui s'écarte largement des réalités.
Merci beaucoup, Constant, d'avoir appelé 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Capi. Parole aux auditeurs, J.R. Nguemo.
Alors nous poursuivons parole aux auditeurs avec vous, Maître Sidi Ali Massi, expert en décentralisation. Vous venez de suivre cette longue série des auditeurs, beaucoup de préoccupations et beaucoup d'appréhensions par rapport à cette problématique. Comment vous réagissez?
Oui, d'abord avant de continuer, je voudrais rappeler deux petites choses. Il ne faudra pas que les gens continuent, parce que nous devons le préciser, à confondre la décentralisation et le découpage. Le découpage est bel et bien une technique de la décentralisation. Notre pays est déjà décentralisé et nous sommes en plein processus de décentralisation. Donc nous pouvons être très bien décentralisés sans découper nécessairement. L'exemple vient de la France. Il y a une vieille histoire. C'est la nôtre, qui commence à regrouper les régions décentralisées jadis, alors qu'ils ont tous les moyens techniques, financiers, ainsi de suite, pour la mettre en œuvre. Ça, c'est une première précision. La deuxième précision, c'est la question de la responsabilité. Nous parlons bien d'une loi. Et donc, les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, on doit les partager au niveau des institutions. Et la première institution qui doit endosser cela, c'est le Parlement. Parce que c'est le Parlement qui a voté tous ces délais. Et aujourd'hui, nous sommes en difficulté, le gouvernement est en difficulté de mettre en œuvre ces dispositions adoptées par notre Parlement à travers ces deux chambres. Il ne doit pas seul endosser cela, parce que le gouvernement n'est que chargé de mettre en œuvre. Les parlementaires, les députés, les sénateurs ont bel et bien lu les dispositions et les propositions, les projets qui ont été déposés. Ils avaient l'obligation d'être réalistes, comme nous nécessitions de les rappeler à travers vos émissions, à travers des notes techniques, à travers des réflexions, que ces délais étaient totalement irréalistes compte tenu des réalités de notre pays. Alors, je voudrais revenir à trois éléments importants qui ont été évoqués par M. Omar. Je voudrais le dire en d'autres termes, il a parlé du respect de la progressivité. Voilà le premier élément qui doit figurer dans les éléments de révision ou de modification de cette loi qui est déjà tombée en désuétude, je le répète. La progressivité. Et qu'est-ce qu'il faudra tirer comme élément dans ces principes? C'est de voir quelles sont les provinces, les actuelles provinces parmi les 11, au regard des éléments qui devait constituer le contenu des commissions. Parce qu'on doit analyser maintenant les rapports de ces commissions-là, qu'on leur donne un délai suffisant pour que ces commissions présentent les rapports. Ces rapports-là, au lieu d'être seulement
considérés en termes de prise d'acte des assemblées provinciales et vont être analysés pour voir quelles sont les nouvelles provinces qui réunissent directement les éléments minimums pour l'installation. On commence par celle-là. Et ça doit se faire moyennant un délai. Le deuxième élément qu'a évoqué M. Omar, que j'ai retenu avec attention, c'est le financement de la décentralisation. On va aussi voir, en termes de second étape, pour des provinces qui sont dépourvues d'infrastructures, des moyens économiques et ainsi de suite, dans quel délai le gouvernement central, parce que c'est lui qui décentralise, pourra mettre en place les éléments minimums pour permettre à ce que cette deuxième vague de provinces soit mise sur pied. Il a aussi évoqué un élément très important, c'est l'expertise. Parce que pour faire cela, il faudra réunir tous les éléments essentiels. Des gens qui connaissent cette question-là, qu'ils puissent proposer des éléments, des délais qui sont beaucoup plus réalistes. Il y a des territoriaux qui sont à travers la République. Les gouverneurs des provinces actuelles peuvent donner des éléments essentiels qui puissent permettre à ce que l'on mette en exergue ces expertises-là pour que nous ne puissions plus tomber dans le cas.
Voilà. On va juste rapidement accorder la parole.
Il y a un autre élément très important, Maître Soudi,
s'il vous plaît.
Toujours pas allusion. Je me dis que le jour qu'on va rencontrer les gouverneurs qui vont aller devant la Cour constitutionnelle pour interpréter la constitutionnalité, par exemple, de leur mandat, on n'a pas prévu, c'est l'occasion dans cette loi de prévoir le sort des actuels gouverneurs des provinces qui sont en plein exercice de leur mandat de 5 ans, parce que n'oublions pas, au regard de la Constitution et des lois, les gouverneurs de province sont élus pour un mandat de 5 ans, c'est de le dire. Et cette loi de programmation, qui doit aussi régler les sortes de...
Notamment le Bandundu et d'autres provinces qui sont concernées, notamment le
Bas-Congo,
le Bas-Congo. Voilà, merci.
Qui ont été élus après qui sont en train d'exercer
leur mandat dans la Cour encore.
Le mandat de 5 ans.
Voilà, merci beaucoup, Maître Soudi. On va juste prendre 30 secondes à chacun des auditeurs. De dommage, on vous a pris vraiment à la fin. Clément, vous nous appelez de Bukungu à l'Équateur. Dommage, on ne saura pas vous accorder la parole. Prof Ignace, vous êtes avec nous. Et Clément, vous êtes avec nous. Voilà, donc malheureusement, on ne saura pas. Ce n'est qu'une partie remise. Je crois qu'on va, on vous accueillera peut-être dans un autre débat prochainement. Vous pourrez prier vraiment de nous excuser parce que les temps nous a fait défaut. Merci beaucoup. Voilà, nous disons merci à Maître Soudi, Ali Massi, expert en décentralisation, d'avoir accepté notre invitation par rapport à cette question. Et nous disons également merci à tous les auditeurs qui ont participé à ce débat. On pourra aller voir avec vous demain pour une autre thématique.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ces débats citoyens dans Parole aux auditeurs. Nous disons merci à Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie et Julie César Bongonda, une émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Donc on se retrouve demain dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.